great American philosopher, John Dewey.
Avoir raison avec John Dewey. Pour certains de ceux qui, en France, le connaissent, au moins de nom, le philosophe américain John Dewey reste d'abord et avant tout associé à la controverse célèbre qui, dans les années 1920, l'opposa au journaliste Walter Lippmann. Ce débat intellectuel s'est fait jour et c'est loin d'être un hasard au moment même où le premier média électronique capable d'organiser une communication de masse en direction de chacun, la radio, broadcast, prend son essor. Dans un premier ouvrage sur l'opinion publique, puis un second sur le public fantôme, Lippmann émet alors des doutes sur la démocratie, fragilisée par la propagande. Dans ce contexte, qui est aussi celui de la montée en puissance des totalitarismes en Europe, John Dewey, en 1927, prend alors la défense de la démocratie dans un livre majeur, Le public et ses problèmes. Un livre qui apparaît d'une très grande actualité à l'heure où un nouveau média électronique, Internet, vient bousculer nos espaces publics. En héritier de John Dewey, Mathias Girel est très attentif à ces transformations, aux fake news et plus encore à la confusion généralisée qui tente à s'installer. Il est aujourd'hui l'invité du deuxième épisode de la série que nous consacrons toute cette semaine à John Dewey. Bonjour Mathias Girel.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférences à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et vous travaillez depuis fort longtemps déjà sur John Dewey. J'ai voulu commencer par cet écho, ce moment de la naissance de la radio et puis celui que nous vivons, celui des débuts encore sans doute de l'Internet, des soucis que cela cause, des transformations en tout cas majeures qui affectent l'espace public parce que c'est aussi à ça que peut servir John Dewey. Si l'on veut être un fidèle héritier de sa manière de faire de la philosophie, penser des questions concrètes, pratiques, qui se posent à nous comme individus, comme citoyens aujourd'hui.
Oui, effectivement, et dans le cadrage que vous avez donné de cette question, vous avez tout à fait raison, le milieu des années 20, c'est un changement radical avec l'émergence de ce nouveau médium qu'est la radio. Les gens suivent le procès, ce qu'on appelait le procès du singe, c'est-à-dire celui d'un professeur accusé d'avoir enseigné la théorie de l'évolution à la radio. C'est un des premiers grands exemples d'audience de masse. Et Dewey est effectivement tout à fait sensible à la manière dont les transformations dans notre environnement vont changer ce qu'on peut attendre de la démocratie ou de ce qui la rend possible. Alors il y a les médias, bien sûr, et puis il y a aussi la construction d'un très grand pays qu'il a sous les yeux, les États-Unis, son urbanisation, le changement des modes de vie. Et une de ces questions, c'est de savoir comment, dans et à travers ces transformations, une démocratie reste encore possible. Et je pense, c'était le deuxième aspect de votre présentation, que si on veut le poursuivre aujourd'hui, effectivement, il faut être attentif à ces transformations très profondes de notre environnement, non seulement naturel, mais aussi numérique, informationnel. Et donc, il y a une très grande continuité entre l'ouvrage de 1927, Le public et ses problèmes, et la situation actuelle.
Alors, je le disais, Le public et ses problèmes, c'était un ouvrage écrit en réponse à deux ouvrages de Walter Lippmann, qui est à l'origine de cette controverse, qui est restée célèbre parce que elle aura des répercussions et des conséquences importantes, en fait. Qu'est-ce qui fait que Dewey se sent, en quelque sorte, sommé de répondre à Lippmann? Il faut préciser que les deux sont plutôt politiquement assez proches. Ils écrivent dans le même journal, The New Republic, qui est un journal de gauche américain.
Oui, les deux sont démocrates. Ils controversent au sujet du public, donc là je vais en parler tout de suite, mais ils ont aussi d'autres sujets de controverse, sur le pacifisme par exemple, sur le fait de mettre la loi, la guerre hors la loi. Bon, ils ont différents sujets de discussion, de conversation, et Lippmann, lui, c'est quelqu'un qui pense que le public ne peut pas être omniscient, ne peut pas participer pleinement à toutes les étapes des décisions démocratiques. Pour lui, il le dit dans le public fantôme, le rôle du public, c'est pas d'exprimer des opinions, mais de s'aligner ou non derrière une proposition, c'est-à-dire derrière des gens qui savent, si possible, des experts, ou en tout cas des gouvernants. Et pour lui, le peuple, c'est une entité qui ne s'exprime que sporadiquement. au terme d'une élection, par exemple, ou au moment d'une décision. Et donc, il est très sceptique vis-à-vis de l'idée que la volonté populaire, la volonté du peuple, dirige les affaires publiques en continu. Alors que Dewey, lui, sa question, elle est différente. Il est tout à fait persuadé du fait qu'il y a des communautés démocratiques qui ont tout à fait leur voix au chapitre, qui ont tout à fait vocation à s'exprimer. Mais il est plus attentif à la manière dont on peut encourager ou contrarier l'éclosion de ces publics. Un des chapitres du public et ses problèmes, c'est l'éclipse du public. Et ça, la question du oui, c'est de savoir, dans l'état actuel de la société américaine, puisqu'il pense avant tout pour son pays à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ces communautés peuvent être encouragées dans un pays qui a été révolutionné de fond en comble. En 100 ans, les États-Unis se sont construits, se sont urbanisés, les nouveaux moyens de transport sont arrivés, les gens habitent dans des villes en grande partie. Donc, il est attentif à cette situation de la question démocratique et il a une caractérisation des publics un peu différente. Pour lui, faire partie d'un public, c'est quelque chose qui se produit quand on se sent indirectement et sérieusement affecté par ce qu'il appelle les conséquences de l'action associée, c'est-à-dire le fait que on vit en société, les effets de nos actions se mélangent avec les effets des actions des autres, avec les effets de les actions de nos machines aussi. Et sa question, c'est de savoir quand est-ce qu'on se sent concerné par les conséquences de cette vie associée. Et ce qui fait que, pour lui, il y a une double fragilité des publics. La première fragilité, c'est que on peut très bien ne jamais se sentir concerné par des choses qui nous concernent. Aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être la question de la retraite ou la question de la réponse à telle ou telle maladie. Donc, il y a une fragilité qu'on pourrait appeler intensive des publics. Est-ce qu'on va se sentir concerné ou non? Et puis, il y a un risque d'éparpillement ou de dispersion des publics, puisque ces conséquences vis-à-vis desquelles on se sent concerné, elles peuvent être de nature extrêmement diverses. C'est une question de savoir, par exemple, s'il y a ou s'il y a eu un public pour Fukushima, c'est-à-dire des gens qui se sentent concernés par les effets d'un accident qui a lieu de l'autre côté du globe, s'il y a un public pour telle ou telle maladie orpheline, maladie de Charcot, par exemple. Et donc, il est sensible à cette double fragilité des publics vis-à-vis de l'intensité de la préoccupation qu'on peut avoir à l'égard de ses conséquences et vis-à-vis de la diversité de ses objets. Ce qui fait que même s'il s'oppose à Lippmann, en fait, ces questions sont quand même assez différentes.
Alors, en vous entendant, on entend aussi beaucoup d'écho à la situation contemporaine. Mathias Virel, vous parlez de fragmentation. On sait que l'un des effets de cette mutation numérique dans laquelle nous vivons maintenant depuis quelques décennies, c'est précisément cette fragmentation des publics. Comment est-ce que de nouvelles fragilités sont apparues? Est-ce que ces mêmes fragilités prennent d'autres formes aujourd'hui? Vous qui travaillez sur ces transformations en vous servant de certains des concepts ou des catégories de Dewey, comment vous observez cela?
Oui, alors ce semestre, même si il s'est passé en grande partie à distance, j'ai eu l'occasion de travailler avec mes étudiants, puis j'ai publié quelques textes qui traitaient de cette question. Je me suis intéressé à la question de la confusion et de la confusion provoquée parfois dans des débats publics à partir de textes qui analysaient les nouvelles formes de propagande, alors attribuées à la Russie, mais aussi à d'autres pays, et un certain nombre de stratégies qui visent à semer la division ou à introduire une confusion artificielle dans des débats publics. Ça s'est très très bien observé à l'égard du coronavirus. Bon, il y a d'autres questions qui sont intéressantes. Et si on essaye d'analyser ces questions, on voit bien que le but de ces stratégies de propagande, c'est pas de convaincre d'autres personnes de quelque chose qui est faux. Donc l'horizon n'est pas celui de la connaissance, ni même celui de la vérité.
Ce qui pouvait être le cas dans les années, au début des années 30, où l'usage par les totalitarismes de la radio à des fins de propagande visait vraiment à inculquer des messages.
Oui, tout à fait. Donc les figures classiques de la propagande, ou aussi dans un autre registre qui touche plutôt le domaine environnemental et sanitaire, tout ce qu'on a étudié autour de la fabrique du doute, la création de l'ignorance, dans un certain nombre de cas, ça pouvait être la tentative pouvait être de convaincre le public de quelque chose qui en dernier ressort était faux ou n'était pas fiable ou était infondé. Et donc si on fait droit à cette idée de confusion et de confusion provoquée, ce qu'on voit, c'est que le but de ces stratégies, c'est de bloquer à la racine l'émergence l'émergence et l'éclosion de publics, c'est-à-dire de gens qui peuvent se rassembler autour d'un intérêt ou d'une préoccupation perçue comme commun, comme commune. Et c'est ce qui explique le mieux ce type de stratégie. Il y a un intérêt politique, il y a un intérêt évident à, disons, cultiver les sources de dissension, à empêcher, disons, un collectif de se reconnaître autour d'un intérêt politique ou autour d'une opposition à un régime ou à un dirigeant. Si on analyse par exemple la communication de l'actuel président des États-Unis, que ça ne gêne pas du tout de dire le contraire l'après-midi, le contraire de ce qu'il disait le matin, bon, ben, on peut le brocarder comme étant irrationnel, voilà, ou divers qualificatifs de cet ordre, mais si on analyse en termes de public, eh bien on voit qu'il rend très compliqué l'émergence d'une opposition. Puisque un discours qui est contradictoire, il est très difficile de s'y opposer. Il est très difficile pour une opposition de se structurer contre un discours qui est intrinsèquement contradictoire et qui cultive la confusion, qui détourne l'attention, qui introduit comme ça de la dissension.
Alors dans cette conférence, le seul enregistrement audio dont nous disposons de John Dewey, cette conférence du 7 décembre 1941, prononcée quelques heures simplement après l'attaque sur Pearl Harbor par les Japonais, John Dewey parle précisément de confusion.
The confusion in the modern world, the uncertainties, the insecurities, the conflicts that are going on, is that our philosophy has been modern in only a half-hearted way. Just as ancient conditions and institutions have, after all, projected themselves and perpetuated themselves in the times we call modern, so naturally ancient ideas and ideals and standards and ways of looking at things have projected themselves and injected themselves into even the philosophies that have thought that they were thoroughly modern, taking cognizance simply of modern events and
ce que peut faire la philosophie face à cette confusion, la philosophie qui aspire à être moderne, Mathias Girel.
Oui, ben le texte que vous venez de nous faire entendre, qu'on peut retrouver sous forme écrite dans le volume 14 des écrits tardif de Dewey, je le dis pour ceux et celles que ça intéresserait de le lire plus en détail.
Il y a 40 volumes de l'œuvre complète.
Oui. Donc en anglais, je suis pas sûr qu'il soit traduit dans les écrits politiques édités par Joël Zas que vous aviez hier. Enfin, faudrait vérifier. Mais en tout cas, ce texte est important parce que Dewey nous dit que la philosophie moderne n'est pas vraiment moderne, qu'elle n'est pas allée au bout de son projet critique, qu'elle reste hantée et traversée par des notions qui n'ont pas été critiquées, qui n'ont pas été interrogées, qui peuvent être celles de liberté, le libéralisme, mais également celles d'individu. Et finalement, le rôle de la philosophie, c'est d'accompagner ou de prolonger cet effort de critique. Dewey, enfin pour le résumer en un mot, il pense que à partir de la révolution scientifique, il y a eu un changement très profond de l'épistémologie, qui s'est centrée autour de la notion d'enquête, qui a perçu l'intelligence et la connaissance comme une activité collective, coopérative, expérimentale. Et il pense que dans le domaine éthique et politique, et pour beaucoup de questions qui touchent à la civilisation, eh bien la philosophie n'a pas produit le même effort, la même révolution. Et donc, de ce point de vue-là, pour utiliser un autre mot que Dewey utilise souvent, il pense qu'il faut reconstruire la philosophie si on veut comprendre simplement ce que nous avons sous les yeux, si nous voulons pouvoir interagir avec la société dans laquelle nous sommes plongés, dont nous faisons partie. Et donc, c'est ce que moi, je vois en premier, disons, dans la conférence que vous venez de diffuser, poursuivre ce travail critique.
Ce travail critique, c'est aussi se débarrasser la philosophie de ces catégories zombies, pour reprendre une expression du sociologue allemand Ulrich Beck, ces zombies qui hantent le discours philosophique encore aujourd'hui. Et ce travail de clarification consiste à les identifier pour mieux s'en débarrasser, Mathias Girel.
Oui, alors bon, il peut y avoir quelque chose d'un peu hétérodoxe à utiliser un terme d'Ulrich Beck, effectivement, qui appartient à une tradition très différente de celle de Dewey, mais je pense que à lire en détail les textes de Dewey, c'est pas si faux, et Dewey a cette conviction-là à l'égard notamment de l'idée de libéralisme. Qui pour lui donc a été une philosophie à l'époque de Locke de libération et de libération notamment à l'égard du pouvoir absolu et arbitraire des seigneurs féodaux, et donc il s'agissait bien de protéger des individus, de protéger des libertés, et il est sensible au fait qu'au tournant du siècle, au moins, ce libéralisme a changé de sens, est devenu pour certains une forme de synonyme de laisser-faire, et donc pour lui, ce qui était un instrument de libération est devenu un instrument d'oppression, alors que le pouvoir économique se retrouve concentré entre les mains de quelques industriels, de quelques grands groupes. Et donc, il est sensible au fait que si on utilise le même terme en étant persuadé que son sens, sa signification n'a pas changé, eh bien, on va se rendre le présent radicalement impensable, et pire, on va se priver d'un moyen d'agir. Et Dewey a la même conviction vis-à-vis de la notion d'individu, et ça, il le consigne dans un texte de 1930 qui s'appelle « L'individualisme, l'ancien et le nouveau », et qui est traduit dans les écrits politiques, là, paru aux éditions Gallimard. Et le constat de Dewey, eh bien, il est un peu analogue. C'est de dire, on est dans une société qui célèbre partout la valeur, les vertus et les mérites de l'individu, « rugged individualism », comme on dit en américain à ce moment-là, donc, vraiment un individualisme franc, affirmé, voire débridé. Et Dewey est sensible au fait que si on regarde autour de nous, dans cette Amérique des années 30, eh bien, tout est standardisé. Il n'y a plus aucune place pour des individus véritables. Il pense au parc de loisirs, au parc d'attractions. Il pense à un certain type de presse. Et il a ce mot dans l'individualisme. Il dit « even crime is corporate ». Même le crime organisé, en fait, c'est industrialisé. Il pense à la mafia de Chicago, notamment. Et donc, on peut très bien chanter les louanges de l'individualisme, mais on risque de ne pas voir, d'être aveugle au fait qu'on est dans un monde où les véritables individus sont devenus impossibles du fait du marché de masse, du fait du fonctionnement de la société américaine de cette époque-là. Et j'ai du mal à penser que si Dewey, par miracle, vivait aujourd'hui, eh bien, il changerait profondément de diagnostic. Donc, il faut critiquer les notions.
Et c'est là qu'il nous est extrêmement utile, parce qu'à la fois, il repère les dérives du sens de ces mots, que ce soit libéralisme ou individualisme. Il est très attentif à des changements qui s'opèrent, qui lui sont contemporains, au fond. Oui. Il est très attentif aussi au fait que ces changements de sens des mots sont dangereux, parce que on risque, si le libéralisme en vient à signifier le capitalisme, on risque de fragiliser ce à quoi il est extrêmement attaché, qui est le libéralisme au sens premier du terme, ou l'individualisme au sens premier du terme. Or, aujourd'hui, dans cette époque de confusion dans laquelle libéralisme est devenu synonyme de capitalisme, ce qui est un peu un non-sens d'un strict point de vue de l'histoire de la philosophie, je pense que cet enseignement de Dewey est très important.
Oui, et ce qu'il a d'intéressant aussi, c'est que du coup, ça le conduit à relire toute la tradition libérale et à voir que, alors, chez Bentham notamment, mais aussi chez d'autres philosophes moins connus, Green, eh bien, on trouve des ressources qui montrent que dès cette époque, l'individu n'était pas perçu comme un atome, comme quelque chose de radicalement séparé et indépendant de ce qui l'entoure, et puis donné une fois pour toutes, mais était perçu aussi du point de vue de ses capacités d'épanouissement. du point de vue de ces transformations possibles. Et donc, Dewey opère sur deux fronts. Il y a une critique acérée de l'actualité, du monde qu'il a sous les yeux, ici en courant de tous les derniers développements technologiques, politiques, sociaux, mais aussi un travail plus traditionnel d'histoire de la philosophie, de réinterprétation de courants qui sont importants pour lui. Et je pense que c'est un aspect intéressant quand on le relit aujourd'hui. Et évidemment, enfin, si on se transporte, disons, dans une période qui est la nôtre et que Dewey n'a pas connue, les phénomènes de mondialisation, enfin, c'est quelque chose qui l'aurait extraordinairement intéressé.
Mathias Girel, vous parliez tout à l'heure de l'enquête. On n'a pas encore vraiment abordé ce concept, cette méthode très très propre à John Dewey. Vous disiez, vous rappeliez à quel point pour Dewey les sciences humaines, la philosophie, les sciences sociales, la société en général doit aller vers des modes de connaissance qui sont déjà ceux des sciences depuis en tout cas l'apparition, vous le disiez, de l'épistémologie, de la méthode expérimentale. Qu'est-ce que Dewey entend par enquête? Quel rapport avec le mot d'expérience qu'il utilise également?
Oui, alors il y a une définition un peu technique de l'enquête chez Dewey qu'on trouve notamment dans sa logique, alors, que je peux rappeler, puis après on va voir que ça correspond à quelque chose qui est très simple finalement. Et Dewey nous dit l'enquête, c'est la transformation dirigée ou contrôlée, donc ça peut pas se passer au hasard, d'une situation indéterminée en une situation unifiée d'une manière déterminée. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais pour Dewey, le point de départ de toute activité de recherche, qu'il s'agisse de science ou d'autre chose, c'est ce qu'il appelle une situation problématique. Il y a quelque chose qui cloche dans la situation, qu'on n'arrive pas à unifier. Si on est en physique, par exemple, à l'époque qui précède immédiatement Newton, la question, ça peut être de savoir s'il y a deux physiques, une physique pour les astres et une physique pour la Terre. Et puis, Newton va unifier ces deux physiques, c'est-à-dire il va résoudre une contradiction ou une tension qui était dans la situation. Et donc, il va l'unifier, il va donner une théorie unifiée de cette situation. Il va créer une physique qui va s'appliquer à tous les corps dotés d'une masse. Donc ça, ce serait la vision générale de l'enquête. Ce qui est intéressant, au-delà de la formulation de Dewey, qui peut paraître technique, mais qui n'est pas tant que ça, l'idée importante, c'est que pour enquêter, il faut transformer la situation. On peut pas se contenter d'inspecter nos idées, de faire de l'introspection. Par exemple, si vous voulez savoir s'il y a de l'hélium dans le soleil, eh bien, il suffit pas de vous poser la question. Il faut avoir un télescope. Il faut inventer un télescope. Il faut le produire. Il faut avoir un spectroscope. Donc, il faut être capable de mener à bien certaines expérimentations. Et c'est en transformant la situation que vous pouvez obtenir une réponse à votre question. Donc ça, globalement, pour Dewey, l'enquête, c'est ça. C'est ce type de transformation de la situation qui fait qu'on va arriver à obtenir une réponse à nos questions. Et il est sensible aussi au fait que l'enquête, c'est une activité qui est collective. Le sujet de l'enquête, c'est-à-dire au sens de ceux qui accomplissent l'enquête, c'est pas un individu isolé, c'est une communauté d'enquête. Communauté scientifique. Donc, il est sensible, disons, à cette dimension sociale de l'intelligence et au fait que procéder à une enquête, c'est répondre à des questions. Et partant de là, donc il observe très bien que ça couvre assez bien ce qui a été opéré par les sciences, au moins depuis la révolution scientifique, et il est très étonné du fait qu'on n'ait pas la même radicalité vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de l'enquête sur les valeurs, et ce qu'il aimerait, c'est arriver à propager cet esprit d'enquête ou cette théorie de l'enquête dans les questions morales, dans les questions sociales. Puisque vous posiez une question sur l'expérience, il y a de l'expérience, mais c'est évidemment pas l'expérience conçue comme passive, c'est l'expérience conçue comme transformation contrôlée de son environnement. Et la question donc de savoir si on peut étendre ce mode de raisonnement à l'éthique, à la politique et à la résolution de problèmes sociaux.
En vous entendant, Mathias Girel, on s'aperçoit que Dewey finalement est un précurseur de ce qu'on va appeler l'histoire des sciences et des techniques, une nouvelle façon de faire l'histoire des sciences qui a démarré il y a maintenant quelques décennies. Et au fond, on s'étonne pas beaucoup que l'un de ses protagonistes de cette nouvelle façon de procéder, Bruno Latour, appelait récemment, au moment de la crise des Gilets jaunes, à mener ce type d'enquête dans une perspective très douillienne, en fait. Il s'agit pour lui de que collectivement des groupes s'emparent de cette situation, notent, décrivent les problèmes qui se posent.
Oui, alors sur les filiations ou les influences éventuelles de Dewey sur la tour, enfin moi j'en ai vu de plus clair qui venait des essais d'empirisme radical de James, qui est une autre figure de ce courant pragmatiste. Mais effectivement, donc le fait d'encourager des formes collectives d'enquête, ce qui ne veut pas du tout dire renoncer à l'expertise, au fait que certains sont porteurs d'une connaissance plus avancée et plus détaillée de l'état de la science, c'est quelque chose qu'on peut effectivement rattacher à Dewey. Donc vous mentionnez Bruno Latour, mais il y a évidemment toute une galaxie de penseurs que vous connaissez aussi. Certains sont des collègues avec lesquels je fais des séminaires, qui se sont emparés du pragmatisme de Dewey pour le transformer, pour le poursuivre dans le domaine de la sociologie pragmatiste. Et il y a
on en parlera vendredi. Ce sera le thème du dernier épisode sur les héritages de Dewey. Oui, avant cela, et parce que le temps passe, Mathias Girel, il y a une chose dont j'aurais aimé qu'on parle, même si c'est rapidement, c'est de la question de la quête de certitude chez Dewey. Comment cette recherche de sécurité nous pousse à rechercher une certitude et les problèmes que ça pose. Voilà une question qui a beaucoup occupé aussi John Dewey.
Oui, alors et ça peut d'ailleurs être une bonne voie d'entrée pour ceux et celles qui voudraient découvrir Dewey. Donc l'ouvrage demande un peu d'attention, mais il est très général. L'ouvrage de 29, qui est traduit en français, qui s'appelle « La quête de certitude », explique bien cette idée, et Dewey fait une forme de portrait de la philosophie occidentale, et il estime, c'est son diagnostic, qu'elle est en grande partie traversée par la quête de certitude, c'est-à-dire la recherche de certitude absolue, fondamentale, à quoi tout le reste se raccrocherait. Et donc il en fait le tableau en philosophie, en sciences et dans le domaine des valeurs aussi, et il estime que ce type d'attitude est ruineux, que cette attitude est ruineuse parce qu'elle va nous conduire tout droit au scepticisme. Si on recherche des certitudes exorbitantes, eh bien, on a de grandes chances de ne pas parvenir à les atteindre. Et pour lui, c'est en fait une mauvaise réponse, une réponse philosophique, une réponse abstraite, une réponse théorique, mais au sens de théorie mal comprise, à effectivement cette forme d'insécurité pratique dont il fait le portrait dans le premier chapitre de la quête de certitude. Et donc, c'est une mauvaise réponse théorique à une incertitude pratique, à un danger dans lequel nous sommes. Auxquels nous sommes sans cesse exposés. Et de ce point de vue-là, il va défendre une philosophie expérimentaliste. Donc vis-à-vis des sciences, ça ne va pas nous étonner, mais également vis-à-vis des valeurs. Il pense que pour savoir ce qui peut nous rendre heureux, eh bien, il faut expérimenter sans cesse de nouvelles formes d'association, de nouvelles formes de vie. Donc ça le conduit à réinsister sur son expérimentalisme, et ça le conduit aussi à faire le procès donc de l'absolutisme en épistémologie, et à défendre une attitude, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé au cours de cet entretien, à recommander une attitude faillibiliste, c'est-à-dire être sensible au fait que même nos théories les plus solides peuvent être conduites à une révision, peuvent être amendées, peuvent être reconstruites. Et il pense que, donc, que ce soit en épistémologie, en éthique ou en politique, eh bien, cette attitude faillibiliste, c'est sans doute un des meilleurs antidotes au fondamentalisme ou au pouvoir, disons, au pouvoir arbitraire, parce que il y a un parallèle entre l'épistémologie et la politique. Si en tant que dirigeant, vous êtes absolument persuadé que vous détenez la vérité et que rien ne peut la remettre en question et qu'elle ne peut pas être amendée, eh bien, ça dicte une pratique du pouvoir qui est autoritaire et qui s'oppose à l'expérimentalisme démocratique que Dewey recommande de son côté. Donc c'est ça le lien.
Oui. Merci Mathias Girel. Et pour approfondir ces questions, je voudrais renvoyer à votre ouvrage « Science et territoire de l'ignorance ». On trouvera la référence bibliographique aux éditions Coué sur la page d'Avoir raison avec John Dewey, une page où vous pouvez retrouver toute la série au fur et à mesure de ces épisodes consacrés aux philosophes américains. Demain, il sera question de pédagogie, parce que Dewey est un grand penseur de l'éducation également. Rendez-vous demain donc à midi sur l'antenne de France Culture. C'était Avoir raison avec John Dewey, réalisation Annabelle Brouard, à la technique Jérémy Kaufmann.